بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous accepte ce soir pour prendre part à ce majlis où on va essayer, inshallah, d'avancer un petit peu dans l'étude des versets concernant la mort et dans l'étude du livre d'une façon générale de Sharh al-Sudur fi Ahwal al-Mawta wal-Qubur, un livre qu'on a donc commencé à étudier un peu avant le mois de Ramadan. Et je vous avais présenté la traduction du livre « La mort et la vie tombale » de As-Suyuti, rahimahullah. Donc une excellente traduction. C'est un livre, on va dire, plus ou moins complet, qui nous rappelle les aqidah bit-tafsil, les croyances détaillées. On va se rapprocher un petit peu. Les croyances détaillées du musulman concernant la mort. Quand on étudie les aqidah, les croyances, il y a les croyances basiques et puis il y a les croyances détaillées. Pour chaque point de nos croyances, ben, ce qui est obligatoire, c'est ce qu'on appelle les bases du aqidah. Par exemple, concernant Allah Azza wa Jal, la foi en Allah, ce qui est basique, c'est de savoir qu'Allah a toujours existé, existera toujours. Allah, le Créateur, Seigneur de l'univers, c'est le Maître du jour de la rétribution qui donne la vie, qui donne la mort, et pour lui, nous vivons. Et notre vie, c'est pour son ibadah, et c'est lui qui décide de notre destination dans l'au-delà. On va dire, nous avons une aqidah, on va dire, basique. Et cela, on le retrouve entre autres dans la sourate Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, ila akhir sourah. C'est vraiment le aqidah concis du croyant concernant l'unicité d'Allah. Maintenant, les aqidah bit-tafsil, avec les détails, c'est connaître les noms, les attributs d'Allah, c'est-à-dire mieux connaître Allah Azza wa Jal. Cela n'est pas obligatoire pour chaque musulman, mais plus on va connaître Allah, plus on va l'aimer, plus on va se rapprocher de lui, mieux sera la qualité de nos actes d'adoration, plus puissants seront nos doigts, on aura une vision beaucoup plus claire de la vie, une conception plus proche de celle du Prophète sallam, de la vie, de la relation entre ce dunya et le akhira. Pour la mort, justement, ce qu'on essaie de voir donc dans l'étude de cet ouvrage, c'est vraiment les points en détail. Et c'est pour moi-même, en premier, qui lis ce livre avec vous, une grande chance, parce que ça nous permet à tous donc d'approfondir notre connaissance pour un événement, comme on avait dit, auquel on n'échappera pas. D'accord ? Nous avons tous déjà enterré des proches, des amis, des voisins. Il viendra un jour où ce ne sera plus nous qui allons porter le janaza, mais ce sera notre janaza qui sera porté par des gens. Allah seul sait qui sont ces personnes. Mais le plus important, c'est qu'Allah nous accorde husnul khatima, une bonne mort. Une mort dans le tawhid, dans l'obéissance, dans le droit chemin. Une mort après qu'on ait demandé taouba, pardon pour nos péchés. Une mort où on ne doit de l'argent à personne. Ça, c'est husn al-khatima. Ça fait partie de husn al-khatima. Que tu meurs et tu n'as de dette envers personne. Husn al-khatima, c'est également mourir et que personne n'a à te faire des reproches. C'est qu'on n'a pas été injuste envers quelqu'un, on n'a pas pris la part de l'héritage d'une autre personne, on n'a pas fait du tort, on n'a pas insulté, on n'a pas humilié. Il a réalisé Dalik. Que quand ce janaza est porté, les gens se disent que lui c'était quelqu'un de, comme on dit, clean, tranquille, alhamdulillah. Rien à dire, rien à redire, et c'était quelqu'un de bien, qui ne causait du tort à personne. Il est mieux parfois d'être discret. Il est mieux d'être discret, de parler peu, et de ne pas causer de tort aux gens. Plutôt que d'être toujours le centre d'intérêt, d'être celui qui contrôle les conversations, les mouvements, qui rapporte, tel a fait ça, tel a fait ça, ce qu'on appelle en créole le fameux ladinafé. En arabe, qu'il a waqal, être un personnage entre guillemets public, connu de tout le monde, comme étant une source d'information fiable. Il y a des gens qui aiment ça. Ils aiment entretenir ça, être un peu, on appelle ça en arabe, sadrul majalis, être le centre de toutes les assemblées. Quand ils parlent, tout le monde les écoute. Tant qu'on dit de bonnes choses, alhamdulillah. Mais des fois, il peut y avoir des dérapages, il peut y avoir des paroles qui vont nous poursuivre jusqu'à l'entrée au Jannah. jusqu'au passage après le sirat, où les opprimés viendront réclamer leur droit. Si on a fait ribat sur quelqu'un, on a insulté une personne, on a dit des choses fausses sur quelqu'un, tout ça, Nami, Marie, Babohtan, tout ça, ce sont des péchés. On ne se rend même plus compte, hein, parce que quand, de nos jours, on parle beaucoup, on écrit beaucoup, on WhatsApp beaucoup, et ainsi de suite, et on n'imagine pas parfois le tort qu'on a pu causer aux gens. Parfois, dans un groupe, on sort un peu du sujet, dans un groupe WhatsApp ou ainsi de suite, on échange avec une personne, on a fait une plaisanterie qui a été mal vécue par quelqu'un, il l'a vécu comme une humiliation, on l'a blessé devant les gens. Si vous avez 150, c'est quoi la limite, 150 ? À peu près. Si vous avez 150 personnes dans un groupe, ben, quand vous humiliez quelqu'un par une parole blessante, ben, c'est comme si les gens étaient présents. Tout le monde sait de qui on parle. Et des fois, il y a des choses comme ça qui nous échappent. Et la personne attendra l'au-delà pour nous demander des comptes. Donc, on doit faire très attention. Donc, voilà. Ça, tout ça, c'est ce que nous souhaitons. C'est husnul khatima. Une bonne mort. Et qu'Allah nous accorde ce husnul khatima. Le rêve, c'est de mourir à Dhul-Hajj. Le rêve, c'est de mourir à Madina Munawwara. D'où le doua de Umar ibn al-Khattab. Allahumma razaqni shahadata fi sabilik wa amitni fi baladi rasulik. Le rêve, c'est de mourir en prière de le sujoud. Le rêve, c'est de mourir en lisant le Coran. Comme qui? Quel calife est décédé, a été assassiné en lisant le Coran? Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Le rêve, c'est de mourir dans une assemblée religieuse comme celle-là. Peut-être pas tout de suite, hein, on n'est peut-être pas prêt, mais un jour, on y pensera. Tout ça, c'est husnul khatima. Qu'Allah nous l'accorde. Donc, il nous restait un dernier couplet de versets pour compléter cette introduction. Et ensuite, nous allons passer au premier thème, à la première thématique. La première thématique, c'est concernant notre rapport avec la mort. Est-ce qu'un musulman a le droit de souhaiter sa propre mort? Il y a des fois, dans les conversations, dans les échanges, quelqu'un désespéré dit, ah, si c'est comme ça, allons, Allah, prends au moins, finis avec ça. Qui n'a pas déjà dit ça? Et c'est une preuve d'ingratitude aussi. Qu'Allah nous pardonne nos faiblesses. Parce que quand on le dit, on n'imagine pas que le voisin qui est à côté là, il souffre 10 fois plus que toi. Mais il s'en remet à Allah. Et toi, juste parce qu'il y a un petit problème, il y a quelques petites situations difficiles, bah, il a vu là, vomi, finis, Allah, prends au moins, finis avec ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et ce sont des formules qu'on n'a pas le droit de dire. On va voir le masla basé sur les ahadith. Alors le dernier verset, pour compléter l'introduction, c'est le verset qui rappelle que le moment de la mort n'est connu que par Allah. Ça, c'est les croyances basiques. Hein. Le reste des croyances basiques, personne ne peut savoir quand elle va mourir, ni à quel endroit il va quitter ce dunya. Tout comme personne ne peut dire à quelqu'un, toi tu vas mourir tel endroit, telle année. Là je m'écarte un peu, hein. Parfois quand vous avez des voyants, des gens qui annoncent des choses, il va arriver telle chose, et on sait le nombre de mensonges qu'il y a dedans. Mais à mon humble avis, vous ne trouverez jamais quelqu'un qui va dire que toi tu vas mourir à telle date, tel endroit. Parce que ça, personne n'a cette connaissance. Même les shayatins ne savent pas, ceux qui apportent les nouvelles à ceux qui diffusent des informations. Même les shayatins ne savent pas ça. Personne ne connaît. Même les anges, les malaïkas ne savent pas. Et dans certaines versions, il est dit que l'ange de la mort ne connaît pas depuis le début, lui. C'est Allah qui lui révèle progressivement le nom des personnes qui vont mourir. Wallahu ta'ala a'lam. Le verset sur lequel nous nous appuyons, il y en a plusieurs, on choisit un seul. On est dans la sourate Luqman, a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna Allah 'indahu 'ilmus. Sa'a, verset connu. Wa yunazzilul ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah 'alimun khabir. Et ce qui nous intéresse, c'est la partie concernant la mort, et personne ne sait dans quelle terre il va mourir. C'est Allah est omniscient et parfaitement connaisseur, c'est-à-dire personne ne peut savoir ni prédire où est-ce que son ruh sera repris. L'heure de la mort et le lieu, ce n'est connu que par Allah Azza wa Jal. Ce que nous devons demander, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le husn khatima, ben une mort dans un moment propice et une mort dans un endroit pur. Donc l'état, la situation, mais également le lieu. Et dans un hadith de, je n'ai pas le narrateur, mais ça a été rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ رُوحِ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ فِيهَا أَوْ قَالَ بِهَا حَاجَةً. Lorsqu'Allah Azza wa Jal veut reprendre l'âme d'un de ses serviteurs dans un endroit particulier, Allah crée une situation pour que la personne aille vers cet endroit. Je répète, lorsqu'Allah a décidé de reprendre l'âme d'une personne dans un endroit précis, dans une région, sur une terre précise, Allah crée les situations parce que toutes les situations sont créées par Allah. Tous les événements de ce dunya sont gérés par Allah. C'est le taqdir d'Allah, le qada wa al-qadr, ce qu'Allah a prédestiné. Allah crée la situation pour que la personne ait besoin d'aller à cet endroit. Et c'est là-bas que son âme sera reprise. Et nous avons tous certainement des anecdotes, on a entendu des histoires de telle personne en voyage, est partie tel endroit, et loin de sa maison comme ça, elle est décédée. J'avais un ami particulièrement dont le père habitait à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, et c'était une personne à la retraite, un ancien, et il a voulu aller en voyage en Chine, tourisme, en vacances. Il est mort en Chine, Ajib. Il sort de Riyad, est parti en Chine, Allah a décrété que son âme soit reprise là-bas. Après, est-ce qu'ils l'ont rapatrié, enterré là-bas? Allahu a'lam, ça je ne sais pas, je ne connais pas la suite. Mais comme ça, je pense qu'on a énormément d'anecdotes. Il y avait un savant aussi qui était venu de Canada, il était venu à La Réunion, il me semble, l'année dernière, ou il y a 2 ans. Il est décédé ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez où, il y a peut-être 3 ans. Ça passe tellement vite, on ne sait plus quand c'est 1 an, 3 ans. Quelqu'un qui était venu du Canada, il était de passage à La Réunion, et il est décédé ici. Vous voyez, il a fait, subhanallah, je ne sais pas ça fait combien de kilomètres, il a fait au moins 14 000 kilomètres du Canada. Allah a décidé que son âme soit reprise ici. Il a réalisé. Donc ça fait partie des croyances basiques que l'heure de la mort et les circonstances, le lieu, ne sont connus que d'Allah. À notre niveau, demandez à Allah husnul khatima. On passe maintenant à notre premier masla, enfin masla c'est un grand terme, le premier point, et le point a été traduit par l'auteur, par la réponse directement. Il dit « An-nahy, an tamanni al-maut wa ad-du'a'i bihi », le fait qu'il soit interdit pour un croyant de souhaiter la mort ou d'invoquer Allah pour qu'il reprenne son âme à cause d'un malheur, d'une difficulté, d'une épreuve. Imam Muslim, rahimahullah, a relaté un hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, de lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit. Donc là, on aura une série de hadiths qui commencent par les mêmes mots, les mêmes termes, et avec différentes raisons qui sont citées. C'est-à-dire que le prophète a dit tout ça, soit dans différentes circonstances, soit dans un hadith beaucoup plus long, et chaque sahaba a retenu une portion. Allah, alayhi salatu wassalam, ça veut dire que personne... que personne, aucun d'entre vous ne souhaite la mort, et que personne demande à Allah de lui accorder la mort avant que ce soit l'heure et que ça arrive. Car le prophète a dit que donc innahu idha mata ahadukum inqata'a 'amaluhu, parce que lorsque un croyant quitte ce monde, son livret de bonne action est fermé. C'est-à-dire qu'il ne peut plus s'approvisionner en bonnes actions. Et sachez, ô musulmans, que lorsque le mu'min vit longtemps, ben cela est un bien pour lui. La yazidul mu'min min umrihi illa khayra. C'est-à-dire qu'un croyant qui vit longtemps, ben c'est, et qui vit longtemps dans l'obéissance, dans les bonnes actions, chaque année, chaque mois, chaque jour qui passe, ce sera profitable pour lui. C'est-à-dire que si on a la foi et on pratique de bonnes actions, ben il est mieux, il est souhaitable de vivre longtemps pour cumuler plus de hasanat, pour obtenir plus de récompenses, pour pouvoir prier encore plus de Ramadan, il a réel et d'aller. Il y avait un récit rapporté par Imam Ahmed, rahimahullah, là aussi dans le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, il dit que il y avait 2 personnes de la tribu des Huyay ibn Qudha'a. Ils s'étaient convertis, ils avaient accepté l'islam auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un de ses deux compagnons est mort dans le chemin d'Allah, shahid. Tandis que l'autre a vécu une année de plus et l'autre est décédé de mort naturelle. Et Talha ibn Ubaidillah raconte que j'ai vu en rêve ces personnes et j'ai vu que celui qui est décédé après, c'est-à-dire de mort naturelle, ben il a accédé au paradis avant le shahid. Je répète, celui qui est décédé plus tard, donc qui a vécu un an de plus, mais qui est mort de mort naturelle, ben il a été accepté et il est entré au Jannah avant celui qui est mort dans le chemin d'Allah. Et donc, il était étonné, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'interpréter ce rêve. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam dit « Alaysa qad sama ba'dahu Ramadan wa salla 6000 raka'a wa kadha raka'a salat sunnah » Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a répondu que celui qui est mort un an plus tard, est-ce qu'il n'a pas fait un mois de Ramadan en plus que son compagnon ? N'a-t-il pas prié plus de 6000 rakat de plus que son compagnon? Et combien d'unités de prière sunna également? Ce qu'on retient du hadith, c'est que plus longtemps on vit, plus longtemps on accomplit de bonnes actions. Et ça nous sera, inshallah, profitable. Voilà donc le premier enseignement. Donc là, quel dua doit ressortir de ce hadith et de ce récit prophétique? C'est que le mu'min doit toujours demander à Allah Rabbul Izzah la hidayah et le tawfiq. Ihdina as-sirat al-mustaqim, que nous lisons dans chaque unité de prière, mais également de demander à Allah de nous accepter pour les bonnes actions et de nous garder dans le droit chemin. Parce que si nous faisons de bonnes actions, nous restons éloignés des péchés et qu'on avance dans le droit chemin, chaque jour de notre vie, ce sera un jour profitable qui pèsera de son poids dans la balance. Des fois, on voit d'autres personnes qui ne fréquentent pas la mosquée, ou des personnes d'autres confessions, hein, qui n'ont pas la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, de leur cœur, et qui vivent dans des conditions de bonheur extraordinaires. Petite anecdote, hein, qui montre que nous avons tous un attachement pour le dunya, ce qui fait de nous des êtres humains. Cet après-midi, en déposant mes enfants à l'école, je vais montrer, il y avait une personne dans une voiture, je ne vais pas dire la marque, une voiture allemande, coupée. Ça venait de sortir, c'était d'une beauté et tout le monde se retournait pour regarder. J'ai dit, c'est magnifique. Et c'était magnifique. Puisqu'elle a démarré, le bruit, ça fait quelque chose. Mais cette personne, ce n'était pas un mu'min, d'accord ? On se dit que certes, il a un bienfait, comme d'autres ont d'autres bienfaits. Ou parfois des croyants, ils ont des bienfaits de ce monde, mais Allah ne les accepte pas pour venir poser leur front sur le sol, pour faire le sujoud. Ben, le plus grand khasara, la plus grande perte, c'est de dilapider, de gaspiller les jours de sa hayat, de sa vie, dans la désobéissance, dans l'insouciance, ou de les passer uniquement dans la quête du dunya, sans rechercher l'agrément d'Allah. Alors que nous, si on vit au jour le jour, hein, là on est déjà le 27, il me semble, la fin du mois, parfois c'est difficile, on regarde les comptes, on est dans, hein, il reste très peu, on se dit que sabrun jamil, on attend, et ainsi de suite. Mais des fois, certes, c'est mieux comme ça, de vivre avec ce qu'il faut, mais que ton Seigneur te fait venir dans sa maison, khamsa marrat fil yom, 5 fois par jour. Que ton Seigneur te choisisse pour t'asseoir et lire sa parole. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Que ton Seigneur te donne tawfiq tous les jours de lire 100 fois Durud Sharif, Salat ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Que ton Rabb te donne tawfiq, te choisit tous les jours pour lui demander 100 fois pardon, Astaghfirullah. Alors que l'autre personne, l'autre croyant, qui lui vit, il est dans un autre monde lui. Il est croyant, il vient de Jum'ah, il vient de Ramadan, mais en dehors de ça, il est dans ce dunya. Il est aspiré miskin, il est aspiré par le dunya. Mais cette personne, peut-être, une journée passe sans que son front ne touche le sol, sans qu'il ne se courbe devant son Seigneur, et sans qu'il ne dise une fois « Alhamdulillah ». Alhamdulillah pour quoi ? Pour la foi, pour la vie, pour la santé, pour le fait de marcher, le fait d'avoir l'intelligence. Alhamdulillah pour avoir une épouse, pour avoir des enfants, pour cette maison, fois cette voiture, fois ce travail, fois tout. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous essayez d'énumérer, de quantifier les bienfaits qu'Allah vous a accordés, vous ne pourrez jamais, sens du verset. Donc, cette personne qui vit dans ce monde, et on, peut-être on l'admire pour sa réussite professionnelle ou autre, ben, peut-être qu'en une journée, il ne dit pas une fois Alhamdulillah. En une journée, peut-être il ne dit pas une fois Astaghfirullah. Il n'a même pas demandé une fois pardon à son Seigneur. Il n'a même pas proclamé la grandeur d'Allah en disant Allahu Akbar. Quel intérêt de vivre de cette façon? Est-ce que ça apporte quelque chose? Ça peut lui apporter un petit peu de bonheur de ce dunya, basse. Mais est-ce que cette journée de 24 heures là, où je vous dis un chiffre comme ça, imaginez que c'est un grand commerçant, un businessman comme vous voulez l'appeler, et qu'en une journée il se fait 3000 euros, imaginez. Alors que d'autres en un mois, hein, on ne peut pas faire ça. Imaginez qu'en une journée il se fait 3000. Mais est-ce que cette journée du mardi 27, où il s'est fait 3000 euros, alhamdulillah pour lui, mais qu'il n'y a pas eu un sujoud, ni alhamdulillah, ni Allahu Akbar, ni astaghfirullah, est-ce que c'est une journée qui va peser pour lui dans la balance du jour de Qiyamah? La wallah, abadan, jamais de la vie. Alors que nous, notre journée à nous, enfin, si, qu'Allah nous accepte, si on a fait les bonnes actions qu'on a énumérées, qu'on a citées, mais c'est une journée qui sera pour nous, ça, dans notre balance, le jour du Qiyamah, lors de la pesée des actions. Donc, à notre niveau, demander à Allah, implorer qu'il nous accepte pour faire les bonnes œuvres et qu'il nous donne la fermeté, le istiqama, pour rester dans le droit chemin. On va s'arrêter à la pour aujourd'hui, Inch'Allah. On va terminer avec un doigt, un enseignement prophétique. Normalement, c'est le hadith qu'on doit citer en conclusion du chapitre, mais on le cite, au moins on retient un doigt avant de dormir. Même accroche, hein, ça me dit la même chose, que personne ne désire ou ne souhaite ou ne demande la mort. Et le prophète me dit qu'il a proposé l'alternative. Si quelqu'un doit demander à Allah la mort, il doit le faire de cette façon, avec cette formule. Allahumma ahyini ma kanat al hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al wafatu khayran li. Dua prophétique de lequel ça nous enseigne que le mu'min peut demander: oh Allah, accorde-moi encore la vie si cette vie me sera profitable. Et ya Allah, accorde-moi la mort si la mort me sera profitable. C'est-à-dire que bimashi est-il là, selon la volonté d'Allah, selon sa connaissance. Et ne pas dire, comme on l'a dit en introduction, moins de problèmes qui nous touchent, on a une mauvaise nouvelle, Allah protège, que ce soit médical, santé, ou décès d'un proche, ou problème de travail, ou peu importe, tout de suite dire que oh Allah, il est trop dur, reprend au moins infini, il ne veut plus vivre. Ça ne marche pas comme ça, et le mu'min ne doit pas souhaiter la mort, parce que, et on verra dans les autres textes devant, que la mort, c'est compliqué. La mort, ça fait mal, déjà. Et ce qui vient après la mort, c'est inexplicable. C'est des années-lumière beaucoup plus compliquées à vivre que toutes tes peines de ce monde. Une douleur de la tombe, une difficulté, une peur, une crainte du qabr, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'un croyant, un être humain peut vivre comme stress, comme peur, comme angoisse, comme douleur durant toute une vie. C'est pour ça qu'on ne doit pas précipiter les choses et demander la mort, parce que ce qui vient après, ben, on n'imagine même pas qu'Allah nous protège de sous al-khatima et nous accorde hasan al-khatima. Jazakum Allah khair, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum Allah khair.